rivière à ferraille.
À la hache, une explosion d'origine inconnue, la lettre du diable, un lavage de cerveau à grande échelle, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles, et je vais vous expliquer très rapidement le concept de notre émission. Donc il est très simple, il s'agit de vous répertorier tous les mystères du monde, de les commenter, mais aussi de les noter, de donner leur niveau de mystère et un petit peu aussi leur niveau de crédibilité.
Et ça fait quelques temps maintenant qu'on fait ça, mon cher Charles, on en est déjà à l'épisode 3, en vrai le 4ème, oui. Si l'on compte le numéro 0. Donc on commence à avoir quelques personnes qui écoutent un petit peu cette émission, qui veulent entendre tous les mystères du monde. Et ces personnes-là nous laissent de temps en temps quelques messages plutôt sympathiques, et je crois que tu en as recensé quelques-uns.
Ouais, alors évidemment j'ai pris que les meilleurs, hein. on serait pas masochiste quand même. Mais je vais vous les lire parce qu'ils m'ont fait particulièrement plaisir. Donc il y a le premier, c'est Ethan37LOL, qui sur iTunes dit « Présentation très brouillonne et les effets dramatiques sont dispensables. Non, franchement, la hype autour de ce podcast est exagérée. » Donc bah, merci à Ethan37LOL.
Il y a une hype autour de cette émission.
Il y a une hype et tout. Il a mis 2 étoiles, j'étais content. Ensuite, deuxième commentaire que j'ai sélectionné, donc il est écrit par Olaf60. Et il est juste intitulé « Commentaire ». Et donc il écrit, Olaf60, « Sujet très intéressant, mais le ton ricanant ado-bébête des animateurs est très énervant. Ce serait bien de gagner en sobriété et professionnalisme, mais c'est prometteur. » Bah ça, c'est un commentaire très encourageant. En effet, je pense qu'il faut qu'on soit plus, littéralement plus sobre.
Mais complètement.
littéralement. Et enfin, le dernier nous a été laissé par HDD1215, donc déjà très, très beau pseudo du 21e siècle. Et il a titré son commentaire « Deux ados sans talent et sans intérêt ». Alors j'ai lu le commentaire, le titre est alléchant, j'ai écouté 4 minutes et je suis passé à autre chose. Alors si vous avez envie d'entendre deux ados ricaner en racontant des faits divers qu'ils ont sélectionnés, jetez-vous donc sur ce podcast et bonne chance. Et ben merci HDD1215, ça nous fait super plaisir. Donc jetez-vous du coup sur notre podcast puisque vous aimez sans doute entendre les adolescents ricaner.
Et bonne chance, surtout.
Et bonne chance.
Non, on vous rassure, il y a quand même énormément d'avis positifs. Là, on a pris
les
plus marrés.
Mais parce qu'on les a aimés, on les a aimés.
On les a aimés, ça nous a fait rire. En fait, c'est marrant de voir que cette émission qu'on fait vraiment avec de bout de ficelle, nous, voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écouter et qu'on est suffisamment écouté pour avoir quelques haters. Et ça fait quand même plaisir. Mais on a aussi beaucoup de gens qui ont aimé. Et d'ailleurs, je voulais qu'on fasse un big up au podcaster qui a parlé de nous dans une de ses émissions. On a été une de leurs recommandations d'Halloween. Ils ont dit beaucoup de bien de l'émission. Ça nous a fait vraiment plaisir de les entendre. Et également un big up à Victoria du blog Mango and Souls qui a parlé deux fois déjà de nous sur son blog, avec à chaque fois des avis très positifs et hyper gentils, hyper encourageants. Ça fait super plaisir. Et des avis hyper encourageants, on en reçoit de beaucoup de personnes, et notamment sur la creepypasta que tu avais fait, Charles.
Ah oui.
Quand tu avais expliqué ce qu'était Candle Cove, ça a beaucoup plu à pas mal de personnes, et d'ailleurs on a reçu quelques commentaires qui nous disent, qui nous encouragent à faire un épisode spécial. Et bien sachez que vos demandes ont été entendues, nous sommes actuellement en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire un épisode comme ça, donc peut-être que ça sortira prochainement sur la chaîne. En tout cas, je pense que ça fait partie des projets du Bureau des Mystères.
Ah oui, j'avais juste un petit remerciement à faire, j'avais lancé un petit appel pour retrouver un dessin animé que j'écoutais dans mon enfance justement pour introduire la creepypasta Candle Cove, et il y a beaucoup plus de gens que ce que j'aurais cru qui ont envoyé un message en me disant c'est Lady Plodo, et du coup maintenant merci à vous puisque vous m'avez conforté dans mon trip régressif, et je me remets à regarder Lady Plodo, donc merci à vous.
Et maintenant Charles sait enfin ce qu'il va pouvoir demander au Père Noël, c'est-à-dire l'intégrale en DVD d'Lady Plodo. Mais nous avons du travail, mon cher Charles, assez rigolé, nous devons recenser des mystères, et je te propose de commencer maintenant.
Allons-y.
L'homme à la hache. Le 19 mars 1919, les rues de la Nouvelle-Orléans ont vibré au rythme du jazz. Et cette nuit-là en particulier, c'était une question de survie. Car il y avait un serial killer qui rôdait dans les rues. As-tu déjà entendu parler, mon cher Charles, de l'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans ?
Eh bien, je dois t'avouer que c'est une histoire que je ne connais pas très bien, pour ne pas dire pas du tout.
Alors, celles et ceux qui ont vu American Horror Story saison 3, Coven se souviennent peut-être d'un personnage, d'un fantôme avec une hache. Eh bien, il est librement inspiré de ce personnage-là qui a réellement existé et qui a frappé la Nouvelle-Orléans entre 1918 et 1919. Bien qu'il y ait eu quelques agressions quelques années plus tôt, mais pas de meurtre à proprement parler. En fait, c'est un serial killer qui tuait les gens avec des objets trouvés chez ses victimes, la plupart du temps une hache, et il y a eu une vraie psychose à la Nouvelle-Orléans. On trouvait notamment des portes avec des traces de coups de hache au petit matin, en se demandant si le tueur à la hache avait essayé de s'introduire dans la maison pour venir nous tuer. Donc une vraie psychose qui s'est étalée, mais pendant un peu plus d'un an, quoi. Tout a commencé le 22 mai 1918, quand un tueur s'est introduit en pleine nuit chez Joseph et Catherine Maggio, un couple d'épiciers italiens. Il leur a tranché la gorge au rasoir, puis il leur a éclaté la tête avec une hache. Les corps ont été retrouvés dans le lit, ensanglantés, avec le crâne complètement fracturé à la hache. On a suspecté un proche, mais des témoins ont vu un homme rôder autour de la maison peu avant les meurtres. Et cet homme-là qui a rôdé autour de la maison peu avant les meurtres, il a fait 8 autres victimes entre juillet 1918 et mars 1919.
Uniquement avec des objets trouvés...
Trouvés au domicile des personnes qu'il a tuées, et donc le plus souvent une hache, d'où son surnom de l'homme à la hache. Parce que dans les foyers à cette époque-là, beaucoup de gens avaient des haches pour couper du bois, voilà, ce genre de choses.
D'accord.
Dans la plupart de ces 9 premières affaires, enfin de ces 10 premières victimes, il y a eu d'autres suspects, notamment des gangs italiens qui commençaient à se développer à l'époque à la Nouvelle-Orléans. C'était pas encore une mafia à proprement parler, mais voilà, il y avait des querelles de gangs à l'époque. On a suspecté aussi des crimes racistes, parce que les 10 victimes étaient toutes issues de la communauté italienne de la Nouvelle-Orléans. Et à l'époque, les Italiens n'étaient pas du tout bien vus aux États-Unis. C'est une situation très compliquée, donc on a suspecté des crimes racistes. Pour certaines affaires, on a suspecté des proches, des anciens employés mécontents. Mais c'est finalement la piste du tueur en série qui est restée dans toutes les têtes et qui a créé cette vraie peur généralisée de l'homme à la hache, surtout chez les Italiens. Sauf que l'enquête a patiné, et donc voilà, il y a eu 10 victimes sans qu'on ait la moindre information sur qui pouvait être le tueur. On suspectait juste que c'était un homme blanc, vraisemblablement d'une quarantaine, cinquantaine d'années, mais rien de plus. Jusqu'à ce que le 13 mars 1919, le tueur écrive une lettre et qu'il l'envoie au Times-Picayune, c'était un des journaux de la Nouvelle-Orléans à l'époque, qui a été publié le 16 mars 1919. Et je vais te lire un extrait de cette lettre qui est extrêmement inquiétante. Ça commence donc par un petit monologue où il explique qu'il est l'homme à la hache, qu'il vient des enfers.
Ah, il l'annonce.
Il annonce, il dit « Je suis celui que vous, les habitants de la Nouvelle-Orléans, appelez l'homme à la hache. »
Lui, pour le coup, ne fait absolument pas de mystère sur son acquis. Il dit littéralement « Je suis méchant. »
C'est ça, il dit tout de suite « Je suis méchant et je tue des gens. » Mais la lettre, je vais te lire un extrait que j'ai traduit, donc qui a été diffusé le 16 mars 1919 dans le Times-Picayune. « Sans aucun doute, vous, les habitants de la Nouvelle-Orléans, me voyez comme le plus horrible des meurtriers, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais vous rendre visite toutes les nuits. Je massacrerais des milliers de vos meilleurs et de vos pires concitoyens, car je suis un grand ami de l'ange de la mort. À minuit 15, jeudi prochain, je passerai sur la Nouvelle-Orléans. Avec ma grande pitié, je vais vous faire une proposition. J'aime beaucoup le jazz. Et je jure par tous les diables que toute personne qui sera dans une maison où swing le jazz cette nuit-là sera épargnée. Si tout le monde écoute du jazz, eh bien, tant mieux pour vous. Une chose est sûre, si certains d'entre vous n'écoutent pas de jazz ce jeudi, ils rencontreront ma hache. Signé, l'homme à la hache.
Il y a eu exactement 2 parties dans cette lettre. La première m'a terrifié, la deuxième, je me suis dit, c'est juste un disquaire.
Écoute, beaucoup de gens ne l'ont pas pris au sérieux à l'époque.
Tu m'étonnes.
Alors, il y a quand même une majorité de personnes qui a été un petit peu inquiète quand cette lettre a été publiée dans la presse. Et d'autres s'en fichaient complètement, voire même sont allés provoquer le tueur, qui ont fait des...
En écoutant du rock.
Non, qui ont déclaré publiquement qu'ils laisseraient leurs fenêtres ouvertes pour que le tueur à la hache n'ait pas à démolir leur porte d'entrée. Des choses comme
provocateur.
Ça. Des gens qui ont fait de la provoque. Et arrive donc cette nuit du 19 mars 1919, où, à moitié par peur, à moitié parce que le jazz est quand même à la mode à cette époque-là, à la Nouvelle-Orléans, c'est quand même le berceau, la Nouvelle-Orléans vibre au rythme du jazz et personne ne meurt. Cette nuit-là, pas de victimes.
Littéralement, tout le monde écoutait du jazz à la maison.
Alors, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, le tueur n'a pas fait de victimes ce 19 mars. Et donc, par contre, il a recommencé quelques mois plus tard. Entre juillet et septembre 1919, il y a eu 3 autres morts. Et donc voilà, mais c'est ensuite, le tueur a complètement disparu dans la nature. Il n'a jamais été rattrapé. On n'a jamais su qui il était, quelles étaient ses motivations, est-ce que cette histoire de jazz, c'était simplement de l'humour, ou un humour un petit peu morbide, on va dire. Toujours est-il que cette nuit du 19 mars de 1919 a beaucoup inspiré certains artistes qui étaient à Nouvelle-Orléans à l'époque, notamment le jazzman Joseph John Davila, qui a composé un jazz qui s'appelle The Mysterious Axeman Jazz, donc l'homme à la hache, qui est un excellent jazz, et donc du coup qui a voilà, beaucoup inspiré les artistes. La question qu'on se pose aujourd'hui, outre qui est-ce que c'était, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces meurtres. Il y a énormément d'hypothèses sur la question, qui ont été condensées dans un livre qui s'appelle The Axeman of New Orleans, The True Story, donc j'ai mon accent anglais, un livre de Miriam Davis.
Tu es excusé.
En fait, il y a eu énormément de livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment par des gens qui sont passionnés par les crimes qui ont eu lieu à cette époque-là. Sauf que dans
Ou
la plupart des histoires...
Tout simplement des fans de jazz.
Oui, aussi, bien sûr. Parce que c'est vrai que cette histoire-là, elle est assez intéressante aussi de ce point de vue-là. Il y a eu beaucoup de livres, et souvent les hypothèses ont été contrecarrées par d'autres auteurs qui ont sorti un livre après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des thèses qui ont été, je sais pas, échafaudées dans les années 80, sont entièrement fausses parce qu'on a trouvé de nouveaux documents qui prouvent le contraire, quoi. Et aujourd'hui encore, outre l'identité du tueur, on ne sait toujours pas pourquoi il tuait. On suppose qu'il ciblait les femmes et que les hommes étaient alors des victimes collatérales, parce qu'il y a des femmes qui ont été tuées seules, et les femmes et les hommes qui ont été tués étaient en présence de leur compagne la plupart du temps. On s'est dit qu'il ciblait sûrement les Italiens, donc sûrement des crimes racistes, ou est-ce que c'était lié au crime organisé et au début de la mafia? Est-ce que c'était tout simplement un serial killer fan de jazz? Toutes ces questions resteront malheureusement sans réponse.
Alors que pourtant on a beaucoup de faisceaux quand même. Femme, italienne, fan de jazz, on a, ça réduit les possibilités, non?
Eh bien, oui, mais en tout cas, on ne trouve personne. On suppose, et ça, c'était un des criminologues, un des auteurs de True Crime qui a fait un livre dessus, disait que la femme de la dernière victime, donc c'était juste un homme qui avait été tué en septembre 1919, avait retrouvé un homme qui aurait eu des connexions avec justement les gangs italiens et l'aurait abattu dans une ville. Sauf que des enquêtes qui ont été faites par la suite montrent qu'il n'y a pas du tout de preuves de cette histoire-là, tout simplement parce qu'en recherchant les livres dans lesquels on recense toutes les morts qu'il y a eu dans la ville, toutes les personnes qui ont été admises à l'hôpital, on n'a rien de tout ça. L'identité de la personne, donc j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, voilà, on avait donné un nom à cette personne, et ce nom-là n'existe dans aucun registre.
Est-ce qu'en même temps, en 1919, je suis pas historien, mais est-ce qu'en 1919, on tenait des registres suffisamment précis pour que ce soit fiable pour l'administration?
Bah, c'est toute la difficulté de la chose, en fait. C'est les documents qu'on retrouve, est-ce qu'ils sont suffisamment fiables? On sait qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe sur certains noms. Là, en l'occurrence, le principal suspect, qui serait donc lié au gang italien, n'a pas vraiment... enfin, il y a 4 manières d'orthographier son nom différentes suivant les livres que tu lis. Par exemple.
D'accord.
Donc c'est compliqué, quoi. Donc voilà, le tueur n'a jamais été trouvé, et malheureusement, je pense qu'on est obligé de classer l'affaire, puisqu'il est sans doute mort depuis, s'il a frappé dans les années 1910, quoi.
Je suis... je serais prêt à parier que oui. Malheureusement, on ne le retrouvera jamais.
En revanche, sur le niveau de mystère, je dirais qu'il est quand même très élevé, limite niveau Jack l'Éventreur.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais,
on est sur une histoire du même genre, qui pourtant a beaucoup moins fait parler que Jack l'Éventreur, qui est plus actuel en plus, Avec plus, enfin voilà, j'avais envie qu'on parle de cette histoire qui est un peu trop méconnue, malheureusement,
et qui est
extrêmement mystérieuse.
Et si en plus n'a été utilisée que dans la saison 3 d'American Horror Story, qui est loin d'être la meilleure, c'est un peu dommage.
ça va te faire rire, mais il est également évoqué dans un des derniers épisodes qui sont sortis de Riverdale, très 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 rapidement.
Ah, je connais mal Riverdale.
Voilà, c'est tout ça. Mais oui, en tout cas, une histoire bien mystérieuse qui se passe sur fond de jazz, et ici, on aime beaucoup le jazz.
On aime ça.
On passe à l'affaire suivante ?
Allez.
Explosion d'origine inconnue. En Russie, à Tunguska, a eu lieu une explosion, le 30 juin 1908, dont l'origine reste encore aujourd'hui partiellement inconnue, mais... ce qu'elle a d'incroyable, c'est qu'elle a complètement embrasé la forêt sibérienne. Donc je vous raconte, notre histoire se déroule, comme je le disais, le 30 juin 1918 en ex-URSS, et nous sommes exactement à 19h17. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se rappeler de l'heure exacte alors qu'on est en 1908, mais c'est pas grave. Et je vous préviens tout de suite aussi, il n'existe pas d'image, pas d'enregistrement disponible de l'explosion en question. Donc ne vous amusez pas à aller chercher sur Google Images, ce que vous verrez, ce sont uniquement des images des théories du complot ou du nouvel ordre mondial ou que sais-je encore.
Oui, parce qu'en fait, c'est cette histoire, donc l'histoire de Tunguska, c'est quelque chose qui est assez connu, hein. C'est un mystère qui traîne depuis très longtemps sur Internet et même dans la communauté des gens qui sont fascinés par les grands mystères du monde. Et c'est cette explosion qui était, je crois, énorme. C'est ça, c'est vraiment une très 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 grosse explosion, une des plus grosses du monde en fait.
Ah ouais, je pense qu'en fait, je sais pas si on en a réenregistré des plus fortes que ça sur Terre. Pour vous donner une petite idée, donc c'est dans la forêt sibérienne, il y a personne autour. Hein. L'explosion a quand même couché entre 60 et 80 millions d'arbres qui sont tombés, qui sont complètement écrasés à cause du souffle de l'explosion. La fumée de l'explosion est montée jusqu'à 20 km d'altitude. Et en termes, si on veut, un équivalent, donc c'est l'équivalent de plusieurs fois la bombe atomique d'Hiroshima ou 40 mégatonnes de TNT. Donc je vous laisse imaginer, je ne sais pas ce que ça fait déjà 1 mégatonne de TNT, mais ça a l'air assez violent. Et donc, comme je vous le disais, il n'existe pas d'image, il n'existe pas d'enregistrement de tout ça. En dehors, évidemment, vous verrez les photos d'arbres couchés, mais c'est uniquement parce que la première exposition, la petite exposition qui a eu lieu à Paris sur Tunguska, évidemment, non, l'expédition, la première n'a eu lieu qu'en 1927, donc 19 ans après l'événement. Donc déjà les Russes sont absolument pas pressés et absolument pas curieux de ce qui se passe sur leur sol.
Bah, c'est assez curieux vu le nombre de témoignages qu'il y a eu à l'époque de gens qui ont vu ça à des kilomètres à la ronde.
Je pense
qu'il n'y a pas eu d'expédition plus tôt.
Ils ont peut-être eu très peur. Moi, ceci dit, si tu me dis là, regarde, il y a eu une explosion, un truc jamais enregistré, on me dit vas-y, je dis non, tu vois. Gentiment, tu vois. Sans mépris ni rien, je dis bah non, merci quoi. Et du coup, je sais pas, les Russes ont dû se dire bon, ça va, de toute façon il y avait personne, je sais pas. Mais du coup, oui, ils ont attendu 19 ans pour envoyer quelqu'un, pour envoyer des gens. Et alors, par contre, là, et c'est là qu'on est bien dans le bureau des mystères, et c'est là qu'il y a du mystère, certes, l'explosion est une des plus puissantes jamais enregistrées, pour autant, il n'y a absolument pas de traces de cratère à l'endroit où on considère qu'il y a le centre, que là où ça a explosé en tout cas, il n'y a pas de cratère. Or, on pourrait s'attendre, quelle que soit l'origine de l'explosion, à ce que, à cet endroit-là, il y ait au moins un trou. Un énorme trou quand même, puisque le son a été entendu à plus de 1500 km à la ronde. T'imagines, si ça avait pété au milieu de la France, dans le nord de l'Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, ils auraient tout entendu aussi.
Ah, c'est fou. Non, mais c'est incroyable qu'une explosion aussi grosse entendue partout, vue d'aussi loin, ne laisse que des arbres couchés, mais ne laisse pas de traces à part les conséquences de l'explosion, quoi.
Ouais, exactement. Donc, ouais, des millions, comme je disais, des millions d'arbres couchés, une fumée qui monte très haut, et puis même un ciel qui se serait en partie embrasé. Mais bon, jusque-là, ça les a pas plus étonnés que ça. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur cette explosion. Certains disent que ça aurait pu être causé par la foudre.
Ce qui semble alors, peu plausible.
Quand j'étais petit, il y a l'arbre en face de ma chambre qui a été frappé par la foudre. Ça m'a à peine réveillé. C'est pour vous.
Oui, ça s'est pas entendu jusqu'à Londres. Très clairement.
Ça m'a réveillé. Je me suis rendormi direct. Et c'était vraiment à 2 mètres de ma fenêtre. Donc non, je pense que il faudrait vraiment que le ciel se charge. Mais alors, c'est Zeus quoi. C'est Zeus qui a envoyé un éclair. Je sais pas. Mais non, la foudre, ça semble assez peu probable. Une hypothèse. Un peu plus sérieuse peut-être, quoique je ne m'y connais absolument pas en géologie, donc tu vas me dire, Mathias, si toi tu la trouves probable, cette hypothèse, ça serait la conduite d'un volcan qui contiendrait énormément de méthane, qui aurait accumulé des millions de tonnes de méthane sous terre, qui aurait explosé, mais apparemment, ce serait absurde. Ce serait absurde pourquoi ? Parce que s'il y avait du méthane qui aurait été sous terre, si ça avait été dans l'air, ça aurait pas été qu'une explosion, mais ça aurait pris feu. Et si ça avait été sous terre, bah il y aurait un cratère, tout simplement.
Oui, c'est ça. Parce que à la rigueur, tu m'aurais dit bon, ça collait plutôt bien à l'idée du ciel qui s'embrase, puisque le méthane, oui. Voilà, est très très inflammable. Donc du coup, mais oui, non, s'il y a pas de cratère et pas d'explosion, c'est quand même bizarre.
Bah oui.
On est sur une explosion sans cratère, c'est très bizarre.
Ce qui est étrange, ouais. Surtout que une autre hypothèse probable, ce serait la météorite.
Oui, c'est la première chose à laquelle on pourrait penser. Oui.
Ça explique à peu près tout. Ça embrase le ciel, la puissance, c'est à peu près celle qu'on peut imaginer d'une météorite classique. Je ne sais pas s'il y a des météorites classiques et des météorites pas classiques. Mais bref, en tous les cas, ce n'est pas un astéroïde, par exemple, parce qu'un astéroïde, c'est beaucoup plus gros. Mais une météorite, pourquoi pas ? Sauf que toujours pas de cratère, donc toujours pas d'explication. Oui, une petite précision aussi, ça n'a pas fait de mort officiellement.
Officiellement pas de mort, est-ce que ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a eu des pertes humaines? Non, il n'y a pas eu de pertes humaines.
Peut-être qu'il y en a eu dans la forêt, mais...
On est en 1908 ça... aussi, hein, et ouais, la première expédition 19 ans après, le corps a bien eu le temps de disparaître, je pense.
Ouais, ouais, exactement. Mais surtout, la région est ce qu'on appelle une taïga, c'est une zone forestière immense, et qui a notamment d'énormes gisements souterrains de carbone. Alors pareil, ça, je sais pas dans quelle mesure ça peut s'enflammer. Pour vous donner une petite idée, c'est un peu comme dans Minecraft, en fait. Pour les gens qui, comme moi, sont complètement nuls en géologie, c'est-à-dire que vous creusez 3-4 cubes de terre et vous tombez sur quelque chose qui a une autre couleur, une autre matière. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est du carbone. Donc la zone est très, très peu habitée. Le seul peuple qui vit là, tu vois, j'ai fait des recherches et tout, hein. Le seul peuple qui vit dans la région, ils ont un nom assez drôle, donc ça s'appelle Tungungska, on est d'accord, c'est déjà pas hyper facile à prononcer. Et tu sais comment ils s'appellent les gens qui vivent dans cette région?
Les Tungunske?
Non, c'est un petit peu plus rigolo que ça. Ils s'appellent les Tungus.
Les Tungus. Ah bah ouais, ça fait bien Tungus. Russe, tu veux dire.
Ouais, c'est vrai que ça fait bien russe, mais ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu le gentilé du Tungunska. Et donc, et alors, juste pour la culture, la minute culture, parce que comme s'il fallait le rappeler, on est dans un podcast culture et société, hein.
Tout à fait.
Donc c'est un peuple nomade, éleveur de rennes. Alors déjà, je savais pas qu'on élevait les rennes comme ça, qu'il y avait des peuples, où je voyais les chevaux et tout, mais c'est vrai qu'il y a des zones où il n'y a pas de chevaux. Ben eux, ils élèvent des rennes, ce qui doit être à mon avis très beau à voir. Mais donc, en plus, c'est un peuple nomade, donc j'imagine qu'après l'explosion, ils ont dû tout simplement
partir.
Bouger. Ouais, oui, ouais voilà, ils n'étaient pas particulièrement attachés à la forêt, j'imagine. Et donc voilà, et j'en viens à peut-être ce qui pourrait être la cause la plus probable. L'hypothèse la plus probable, en tout cas celle qui, moi, me semble être possible, c'est une comète. Une comète. Celle qui a vu venir Superman. Non, une comète, puisque j'ai longuement étudié cette question pour préparer cette émission, la comète n'est pas constituée que de roches. La différence entre une météorite et une comète, c'est que la météorite est uniquement un gros caillou. Tandis que la comète, elle est constituée notamment de cailloux, mais aussi beaucoup de glace. C'est ce qui fait la traînée, tu vois, la comète dans le ciel. C'est ce qui fait la traînée, c'est la glace en fait qui part avec je sais pas quoi d'ailleurs, et qui du coup, contenant du gaz potentiellement inconnu et de la glace, aurait pu exploser avant de toucher le sol. Le fait de rentrer dans l'atmosphère suffisamment vite et la différence de température et de tout ce qui s'ensuit, la réaction au gaz terrestre, tu vois, qui est particulier, même si nous, on n'a plus trop l'habitude de voir ça comme particulier parce que ça nous fait vivre, ça reste des gaz assez particuliers. Et ben, la rencontre de tout ça ferait que elle aurait explosé avant de toucher le sol, et la déflagration, évidemment, suivant la taille de la comète, est assez forte pour produire ce genre de dégâts. Ben oui, et ça expliquerait aussi l'embrasement du ciel. Puisque, en effet, si ça rentre dans l'atmosphère, le mélange, la comète contenant des gaz et de la glace, et ben quand ça rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire que ça percute quelque chose et qu'il y a du frottement, et ben ça peut provoquer une explosion. Et ça explique les 20 km de fumée. Mm-hmm. Ça explique les 20 km de fumée. Donc voilà, je veux pas me vanter, mais je crois que j'ai résolu l'affaire.
Bah écoute, bravo. Je pense que c'est bien la première fois qu'on résout une affaire dans le Bureau des Mystères. Donc du coup, le degré de mystère n'est finalement plus si élevé. Enfin, il reste un peu élevé.
Parce que il reste un peu élevé parce que j'ai pas fait de prélèvement sur place, malheureusement.
Je pense qu'à l'époque, en 1908, ils ont pas dû faire. Enfin, en 1900, du coup, c'était en quelle année tu m'as dit qu'ils y allaient ?
En 1908. Et donc, les premières photos, pour la première expédition, datent de 1927. Ouais, et ça. Les premières photos que j'ai vues datent de 1929.
D'accord. Ouais, donc c'est bien après. Donc, oui, les traces auraient pu avoir le temps de disparaître dans la nature, en fait.
Oui, par exemple, mais pas le cratère, évidemment.
Mais pas le cratère. Donc, ouais. Ok, bah écoute, merci d'avoir résolu l'affaire de Tunguska. À toi
c'est
tout
un seul. Plaisir, tout le plaisir est pour moi.
Et encore une affaire rondement menée par le Bureau des Mystères. Allez, on passe à un autre dossier. La lettre du diable. À la fin du XVIIe siècle, une nonne a écrit une mystérieuse lettre codée, qui lui aurait été dictée par Belzébuth en personne. Et plus de 3 siècles après, une partie de la lettre a enfin été traduite. Surprise! Mais avant de parler du contenu de la lettre, on va parler de la lettre en elle-même. Et pour ça, on va remonter au XVIIe siècle. Nous sommes au monastère Palma di Montecario, dans la province d'Agrigente, en Sicile. On est le 11 août 1676. Et ce jour-là, on retrouve une des nonnes, qui s'appelle Sœur Marie Crucifiée de la Conception. Donc un nom
à rallonge un peu quand même, hein.
Un nom un petit peu qui montre un funeste destin quand même, Sœur Marie Crucifiée de la Conception. On la retrouve assise au sol d'une cellule, désorientée, le souffle coupé, et elle a la moitié du visage barbouillé d'encre noire. Entre ses mains, elle a une feuille sur laquelle est écrit un message, mais un message qui est écrit dans un alphabet incompréhensible. Et la nonne, quand on lui demande de traduire ce qu'elle vient d'écrire, elle en est complètement incapable. Parce qu'elle dit que ce n'est pas elle qui l'a écrite, mais que c'est le diable qui l'a forcé à tracer les signes. La lettre fait 14 lignes, et elle lui aurait été dictée par Belzébuth en personne. Elle explique qu'elle a lutté en vain contre le diable et les démons pendant plusieurs dizaines de minutes. Enfin, en tout cas, on ne sait, elle a perdu la notion du temps, donc elle est incapable de dire combien de temps ça a duré.
Elle a essayé de ne pas écrire.
Ouais,
elle a essayé de se retenir.
Et justement, la raison pour laquelle elle aurait de l'encre sur le visage, c'est parce que ce seraient les démons qui lui auraient projeté sur le visage en la menaçant de la battre à mort avec l'encrier qui était à côté. Du coup, Dieu l'aurait, selon elle, c'est elle qui disait ça, protégée, elle l'aurait accompagnée dans ce combat contre les démons et le diable, mais elle n'aurait pas réussi à la protéger entièrement puisque la lettre a finalement été écrite. La lettre originale, elle est aujourd'hui conservée au monastère Palma de Lichtenberg, c'est donc dans la province d'Agrigente. C'est... En fait, il y a une copie de cette lettre qui est disponible à la cathédrale d'Agrigente, donc les deux lieux sont assez proches.
Et on peut la lire, du coup ?
On peut la lire, bien sûr, et d'ailleurs, il y a des scans qui ont été faits, donc on peut la découvrir en ligne. Seulement, elle est apparemment indéchiffrable, puisque ce sont des signes qui mêlent différents alphabets, et donc du coup on ne la comprend pas, c'est vraiment...
Ah, c'est pas que du latin ou...
Non, et justement la lettre, son contenu est resté un mystère pendant, pendant des siècles, depuis 1676, depuis qu'elle est arrivée en fait. Et en fait finalement le mystère a été en partie résolu, très récemment. En fait, l'info est sortie en premier dans le journal italien La Stampa, qui est un journal assez connu, hein, qui parlait en fait d'un musée un petit peu spécial. Ça se passe à Catane, donc c'est de l'autre côté de la Sicile, hein, pour si vous voyez la géographie de la Sicile. À Catane, il y a un musée de sciences un peu moderne qui s'appelle le Ludum Science Center. Et c'est pas qu'un musée en fait, il y a aussi une équipe qui travaille là-bas et qui aime beaucoup tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc ces gens-là, ils traînaient sur le dark web, comme ils le font assez régulièrement, parce que c'est des passionnés d'informatique.
Évidemment.
Bah, c'est des gens qui sont vraiment passionnés d'informatique, donc du coup, ils vont souvent voir s'il y a des nouveaux logiciels, voilà, un petit peu qui changent sur le dark web. Et ils en ont découvert un, c'est un logiciel de décryptage qui serait, selon Daniele Abate, qui est le directeur du Ludum Science Center, qui serait utilisé par les services secrets de différents pays pour justement décoder des messages d'autres espions ou décoder des messages secrets, quoi. C'est un logiciel très puissant et eux, ils se sont dit, il est à disposition sur le dark web, donc on va le télécharger, on va essayer de l'utiliser et on va essayer de s'en servir pour décoder la lettre du diable.
Et du coup, peut-être savoir à quel niveau de cryptage se situe le diable, tu vois. Genre s'il est nul, s'il est nul ou pas.
Bah écoute, le diable s'est en partie fait avoir par le dark web, on peut dire ça, visiblement.
Puisqu'en fait, c'était de l'espéranto.
C'était pas de l'espéranto, mais c'était plus compliqué que ça. En fait, c'était vraiment un mélange de plusieurs langues. Eux, l'idée qu'ils ont eue, c'est parce qu'en fait, on peut charger des langues et des alphabets dans ce logiciel. Eux, ils ont eu l'idée de charger des caractères de grec ancien, d'arabe, d'alphabet runique et d'autres langues anciennes, comme ça, à l'intérieur. Et ça a marché. En fait, il y a une grande partie de la lettre qui a été traduite. Et effectivement, le contenu est assez diabolique, puisqu'il décrit Dieu, Jésus et le Saint-Esprit comme des poids morts. Il y a des critiques contre Dieu qui voudraient libérer les mortels, etc. Comme si c'était vraiment le diable qui l'avait écrit et qui, comme on pourrait le dire aujourd'hui sur les internets, qui clasherait Dieu.
Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas la première forme de clash?
Ben, du coup, oui, c'est, enfin, le diable contre Dieu, ce serait un clash très ancien. Un clash divin, effectivement. Alors du coup, cette lettre a été traduite, donc comme je l'ai dit, voilà, elle est effectivement diabolique, il y a effectivement des choses à l'encontre du Seigneur à l'intérieur, et du coup, le mystère qui reste, c'est comment est-ce qu'elle a été créée, cette lettre? Pourquoi? Est-ce que c'est la nonne qui l'a fait elle-même sciemment? Est-ce que le diable lui a vraiment dicté? On a un petit peu du mal à y croire. Mais le Daniele Abate, donc le directeur de Ludum, lui a une théorie assez plausible, je trouve. Il dit que la nonne, à l'époque, maîtrisait très bien beaucoup de langues et d'alphabets anciens. Ouais. Déjà, de base, dans ses activités de tous les jours, elle traduisait des textes, donc elle connaissait bien ce genre d'alphabet. Daniele Abate pense qu'elle aurait pu souffrir de schizophrénie et imaginer qu'elle parlait vraiment au diable. Donc cette lettre pourrait être le fruit de son imagination, tout simplement. Et du coup, elle l'aurait écrit en se servant inconsciemment de tous ces alphabets qu'elle connaît. Et du coup, aurait créé un code inconsciemment dans cet état un peu de transe, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle aurait fait. En tout cas, pour moi, c'est une hypothèse qui est plausible, qui est sûrement plus rassurante que de se dire que le diable lui aurait vraiment dicté une lettre.
Ouais, et puis en plus, dans les cas d'exorcisme ou dans tout ce qu'on a pu regarder chacun de notre côté dans nos milieux professionnels respectifs, évidemment, les langues qui sont parlées, qui sont écrites, ce qui est impressionnant des fois... Quand on voit certains exorcismes, c'est des gens qui ne parlent pas un mot de la langue et qui arrivent à sortir des phrases entières comme s'ils la parlaient très naturellement, genre du latin ou du grec ancien ou des choses comme ça. Là, ce qui est assez rassurant plutôt facile à expliquer, c'est que la personne parlait ces langues-là, quoi. Elle les parlait très bien. Enfin, elle les parlait. Elle savait les écrire et elle avait.
Voilà, elle savait les déchiffrer. Ouais. Ça faisait partie, en fait, voilà, des travaux que tu peux faire quand tu es dans un monastère. C'est vraiment la traduction de textes anciens, simplement pour avoir la lecture des textes originaux sacrés. Voilà, ça en fait partie, quoi. Et pour moi, en tout cas, ça me semble être l'hypothèse la plus plausible. Et tu parlais justement des gens qui commencent à parler latin soudainement lors des exorcismes. Il faut savoir que souvent, dans ces cas-là aussi, c'est assez explicable. Quand les gens parlent un vrai latin, parfaitement latin, c'est que souvent dans la famille, c'est très religieux et on récite des psaumes en latin. Et donc du coup, ça rentre inconsciemment et c'est pour ça qu'ils les ressortent. Et les personnes qui ne connaissent pas le latin et qui n'ont pas l'habitude de lire du latin et qui se mettent soudainement à parler un soi-disant latin, en fait, c'est un petit peu comme les personnes qui sont sous hypnose. On te dit, quand t'es hypnotisé, on te dit, oui, vous parlez seulement chinois maintenant. Et ben en fait, tu vas pas parler vraiment chinois, tu vas parler une espèce de truc qui dans ta tête ressemble à du chinois. Bah là, c'était un peu pareil, les gens baragouinaient des trucs vaguement latins avec des oum et des. Ouais, tu vois. C'est un peu ce qui se passait dans certains cas voilà, de soi-disant possession des démoniaques. Quoi.
D'accord.
Donc, voilà. Et là, voilà, ce qui est fou, c'est que par contre, on ne sait pas comment cette nonne a fini ses jours, tout ça, ça appartient limite à de la légende locale. Mais on, ce qu'on sait, c'est qu'elle a vraiment existé en revanche. Et
d'accord, que la lettre. Mais on ne sait pas après ça, après la lettre.
Après ça, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, ça n'a pas été consigné, et voilà, il y a juste aujourd'hui la lettre qui est disponible, une copie à la cathédrale d'Agrigente pour ceux qui veulent y aller. Et l'affaire n'est pas totalement classée, puisqu'il reste quand même quelques lignes à traduire. Avec le logiciel de décryptage, ils ont réussi à en traduire 11 sur 14. Il en reste encore 3, donc on ne sait pas ce qu'elles contiennent, peut-être on suppose d'autres injures envers Dieu.
Tu sais ce qu'il y a écrit à mon avis ?
Je ne sais pas.
Tu sais pas. À mon avis, dans les 3 dernières lignes, il y a écrit « Si vous arrivez à lire ça, vous avez un très bon logiciel de décryptage.
» Parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Par contre, ce qui est un peu plus inquiétant, et c'est pour ça que j'ai pas envie de classer l'affaire totalement, c'est que selon la légende, il n'y avait pas qu'une seule lettre qui lui aurait été dictée.
Ah.
Parce que justement, dans ce combat, elle devait écrire d'autres choses. Et selon la légende, cette nonne aurait eu 2 autres messages de démons qu'elle n'a pas écrit, mais dont elle s'est souvenue jusqu'à la fin de sa vie, et elle aura emporté ses secrets avec elle dans la tombe.
Lavage de cerveau à grande échelle. Les États-Unis, on le sait bien dans cette émission, essaient de se doter d'armes parfois un petit peu délirantes, qui restent tout à fait dangereuses, hein, cependant. Et entre les années 1950 et 1970, un projet en particulier a été développé par Mathias.
La CIA.
La CIA.
Son nom de code. Pourquoi à chaque fois qu'il se passe des trucs bizarres, c'est toujours la CIA ?
Écoute, un jour on aura la réponse peut-être, je sais pas. Pour l'instant on travaille, j'ai l'impression qu'on grappille en fait, on tire un petit fil. Un petit fil et au bout d'un moment on va avoir l'image qui se dessine ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est genre un puzzle qui se fait petit à petit. Et d'ailleurs vous allez le voir, on va faire des liens avec notre numéro 0 aujourd'hui. Puisque le nom de code de ce projet délirant, développé par les États-Unis, s'appelle MK Ultra et vise à développer des techniques de manipulation mentale. Et une fois de plus, je pense qu'on va avoir, il y a 2 marottes qui se dessinent là, il y a CIA d'un côté et Chanson de Muse de l'autre, puisque Matthew Bellamy a l'air vraiment très inspiré par les complots américains. MK Ultra est aussi une chanson de Muse.
Une très bonne chanson de Muse.
Non, elle est nulle.
Non, mais elle est pas faible, c'est une des moins bien.
Mais la dernière fois, on vous avait parlé de Harp et on vous avait dit que c'était, le nom avait été utilisé pour un live de Muse, un CD live. Et bah là, MK Ultra est aussi un nom utilisé par Muse pour une de leurs chansons. Mais bon, c'était sur un album un peu moins bon. Donc
c'est peut-être que Matthew Bellamy est un ancien agent de la CIA. Hein.
Bah écoute, à croire. Hein.
En tout cas, c'est
ça. Il a l'air bien informé, dis donc. Mais donc, sous prétexte de recherche sur le cerveau humain, des dizaines de milliers de personnes vont servir de cobayes non volontaires, et j'insiste sur le non volontaire, et devenir un peu des rats de laboratoire au service de ce programme. Et c'est en 1974, après la démission de Richard Nixon aux États-Unis, que le New York Times va révéler les expériences complètement illégales, hein, alors là pour le coup on est dans l'illégalité la plus totale, menées par la CIA sur des citoyens américains. Puisque dans notre numéro 0, on vous avait parlé de Pont Saint-Esprit, donc des expériences qui ont été menées par Frank, potentiellement menées par Frank Olson, agent de la CIA, chimiste de la CIA, dans un petit village français. Là, ça se passe sur le sol américain.
On rappelle vite fait Pont Saint-Esprit, hein, une expérience avec des conséquences dramatiques que vous pouvez donc écouter en détail dans le numéro 0. Faites un petit peu attention, ça peut faire flipper par moment. On vous prévient quand même.
C'est le but de l'émission, tu me diras.
C'est effectivement le but de l'émission.
Mais donc, 2 ans après 1974, donc en 1976, un premier rapport commandé par le président Ford démontre que MKUltra a été approuvé en 1953 par le directeur de la CIA lui-même. Donc, ce qui renvoie les événements de 1951 à Pont-Saint-Esprit déjà hors de MKUltra. Des expériences potentielles, certes, puisqu'on va le voir, il y a des échos ici. Mais, en tout cas, ce n'était pas dans le cadre de MKUltra. Officiellement, dans ce début d'année 50, la CIA aurait eu vent de l'utilisation par les soviétiques de LSD à des fins de manipulation sans que cela puisse être vérifié. En fait, ils recevaient des rapports, ils recevaient des informations de la part de leurs informateurs sur place, sans pour autant qu'ils puissent valider, surveiller par satellite, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de satellite, ces informations-là. Donc les Américains pensaient notamment que le LSD était utilisé lors d'interrogatoires qui auraient en fait pour but de laver le cerveau, et parfois, dans les scénarios américains tels qu'ils les envisagent de la pire manière, et parfois renvoyer en fait les agents américains convertis à l'idéologie communiste comme s'il y avait besoin d'un lavage de cerveau pour devenir communiste, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. L'une des premières expérimentations conduites par la CIA dans le cadre du projet MKUltra a été menée dans le Kentucky, donc sur le sol américain. Dans une prison, pour être exact, pour toxicomanes. C'est vrai, je veux dire, tant qu'à faire, quitte à tester des nouvelles drogues, autant les tester sur des gens qui ont déjà eux-mêmes testé des drogues, qui ont l'habitude, et du coup, ben, peut-être qu'ils nous feront des meilleures reviews, tu vois, ils nous font des meilleurs retours, ils pourront en parler sur leur Tumblr ou sur leur Instagram, je ne sais pas.
Non, sauf mais en que tout c'était cas, clairement pas l'idée.
C'était non, pas l'idée,
sur un truc
non.
Beaucoup plus dark, vraiment.
Ouais, exactement. Donc ils ont pris des personnes qui étaient déjà accros à certaines drogues pour tester les drogues artificielles créées par la CIA. Mais ce n'est pas tout. Puisque des électrochocs et des radiations ont également été au programme de ce petit centre dans le Kentucky. Donc petit centre de vacances plutôt agréable, puisqu'on peut y prendre de la drogue, des électrochocs et des radiations. Et tu sais comment, Mathias, la CIA récompensait les patients après les séances de tests? Parce que la CIA, pas méchante, tu vois, fait des tests avec des substances qui n'ont jamais été testées sur personne et récompense évidemment les cobayes
avec
non volontaires.
Avec de la vraie drogue, j'imagine.
Exactement.
Non, mais c'est ça, c'est tout la CIA.
Ils récompensaient les personnes qui testaient leur nouvelle drogue par de la drogue, mais avec une petite particularité. Ils laissaient aux toxicomanes le choix de la drogue.
C'est sympathique de leur part.
C'est sympa. C'est donnant-donnant, tu vois. T'es toxico, je te donne de la drogue. Donc voilà. La CIA a été pendant un moment le dealer officiel de beaucoup de gens. Et ceci jusqu'en 1957. Enfin, ça a continué après, mais en 1957, déjà, la CIA avait produit 6 nouvelles substances toxiques considérées comme des drogues. Donc ils ont inventé plus de drogue que sans doute tous les junkies réunis. L'affaire du pain maudit, dont on vous avait parlé dans le numéro 0 du Bureau des Mystères, a eu lieu, je le rappelle, en 1951. Donc on était au balbutiement de l'utilisation du LSD qui a après été utilisé à grande échelle dans le cadre de MKUltra. Et au moment le plus fort de ce programme de recherche, sur lequel on reviendra, là, j'imaginais, la manière dont je l'imaginais, c'était une présentation assez large de l'ampleur de ce programme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de sous-programmes ont été développés à l'intérieur d'MKUltra pour la simple et bonne raison qu'au moment le plus fort, le programme réunissait, tiens-toi bien, 185 chercheurs mobilisés dans 80 institutions américaines. Et parmi ces 80 institutions, il y avait des institutions académiques, donc scientifiques, universitaires, des hôpitaux et des laboratoires, dont des laboratoires pharmaceutiques. 185 chercheurs dans 80 institutions. Donc, avec un budget qui était proche de l'illimité. Ça ferait évidemment rêver toute la recherche française. Pas pour faire les mêmes choses, mais ça reste impressionnant. Et c'est pour ça que je pense qu'on reviendra dessus, parce que là, dans le
oui,
temps
que
faisait un parti, c'est impossible.
MKUltra, outre ces histoires de drogue, c'était aussi où on essayait de développer des pouvoirs psychiques chez des gens aussi. Ça faisait partie du même programme.
Ben, c'est même pas outre les drogues. C'est pas, on voulait développer des pouvoirs psychiques par les drogues. La plupart du temps, les drogues, on les considérait comme pouvant développer des capacités humaines.
D'accord, oui.
Des capacités surhumaines, plutôt. Et en fait, Stranger Things, alors je ne reviendrai pas sur... Voilà, on va parler de Stranger Things deux minutes, hein, mais c'est en partie ça. Eleven, elle est le produit de ce qu'aurait fait MKUltra.
Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, on est en plein dans les références justement à ces années-là.
Ouais.
Et c'est, oui, c'est exactement ça. C'est essayer de créer en quelque sorte des mutants avec des produits qui n'existaient pas avant, quoi.
Avec des petits anachronismes, hein, puisque Stranger Things vous rappelle à peu près toutes les deux secondes que ça se passe dans les années 80. Là, on est entre les années 50 et le début des années 70. Si, ce qui, ceci dit, peut coller avec l'âge d'Eleven, hein, quand on y pense. Elle aurait pu naître au début des années 70.
Oui, c'est vrai.
Il y a aussi eu de la variété dans les expériences qui ont été menées, parce que bon, il ne faut pas non plus que les scientifiques s'embêtent trop à mener leurs expériences. Il faut un petit peu de variété. Et notamment, en 1966, ça c'est un des volets qui m'intéresse le plus, même s'il n'est pas forcément développable ici. En 1966, des bactéries cachées dans des petites ampoules, tu sais, les petites ampoules avec lesquelles on peut contenir de la vitamine aujourd'hui, ont été envoyées dans le métro new-yorkais, et elle contenait des bactéries qui évidemment étaient des bactéries complètement mortelles, mais qui étaient là pour calculer la vitesse de propagation de ce que pourrait être une attaque bactériologique à grande échelle à New York. Quoi de mieux pour savoir comment se passe une attaque bactériologique sur ton sol que de la perpétrer toi-même sur ton
sol. Propre peuple,
évidemment.
Complètement dingue.
Et ouais, c'est complètement dingue. Donc voilà, ça fait partie des nombreux aspects, des nombreux... La grande variété, disons, d'expériences menées par la CIA dans le cadre d'MKUltra, avec, côté CIA, un seul mort officiel à déplorer.
Parmi les gens à qui qu'on a soumis à ces tests, à ces nouvelles drogues.
Parmi les gens qui travaillent à la CIA.
D'accord, ah oui.
Il n'y aurait eu qu'un seul mort, et bien ce monsieur... C'est Frank Olson, la seule personne morte au sein de la CIA pendant tout le projet MKUltra, ce serait Frank Olson, et ce serait du coup par suicide. Et j'ai appris autre chose, c'est qu'à la fin d'une de ses conférences, il buvait un cognac, je crois, un alcool, à la fin d'une de ses conférences, il s'est rendu compte que l'alcool qu'il venait de boire contenait du LSD. Et il se serait suicidé apparemment... relativement peu de temps après. Donc pour faire le lien aussi avec ton Saint-Esprit, hein, où ce même monsieur aurait par inadvertance apparemment laissé du contenu LSD dans la farine, qui a servi à faire le pain qui a rendu les gens fous. Donc voilà, ce serait la seule personne qui serait morte au sein de la CIA dans ces années-là.
Donc ce serait en conséquence de Pont Saint-Esprit, en fait.
Ouais, peut-être en conséquence de Pont Saint-Esprit, du coup. On sait qu'il était dépressif, et en plus ils lui ont fait prendre du LSD. Je pense que c'est typiquement le genre de scénario où t'as un scientifique qui regrette, et c'est un peu le seul à regretter, et du coup ils se disent, bon bah, au point où on en est, on a déjà utilisé le peuple comme cobaye, bah on lui met du LSD, on le rend dépressif, et voilà. Et c'était exactement ça en plus, hein, vraiment.
Ça pourrait être un scénario de film, quoi.
Ouais, complètement. Grave, complètement. Et c'est exactement ça, la CIA, c'est... Enfin, la CIA, bon, entièrement, mais MKUltra, c'est pousser les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, et parfois sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vois, c'est exactement le type de manipulation mentale que MKUltra cherchait à produire en faisant prendre de la drogue aux toxicomanes, tu vois, qui perpétue des actes qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, mais qu'ils le fassent quand même comme ça, de bonne volonté, parce qu'ils sont absolument plus conscients. C'est vraiment une dissociation du corps et de l'esprit, hein, ce truc d'MKUltra. C'est vraiment dissocier les deux et prendre contrôle de l'esprit pour faire agir le corps. Et le programme, du coup, a été clôturé dans le milieu des années 70, avec, aussi pour montrer que c'est pas de la théorie du complot, parce que ça a l'air complètement dingue, raconté comme ça, mais c'est pas de la théorie du complot, des personnes... qui ont subi ces... qui ont été cobayes, plutôt, non volontaires, ont été indemnisés des années plus tard par la CIA, mais la CIA a fait en sorte que l'indemnisation soit la moins médiatique possible, puisque indemniser une victime revient à considérer qu'elle est victime, donc est un aveu de culpabilité, tout simplement.
Exactement.
Donc du coup, ces personnes ont quand même témoigné dans plusieurs documentaires, dont un, qui est celui dont j'avais parlé au moment de Pont Saint-Esprit, mais j'en ai découvert d'autres à cette occasion-là. Et il y a des personnes qui commentent ce qui leur a été fait, en fait, pendant toutes ces années-là. Jusque, et je clôturerai là-dessus, évidemment, les excuses officielles et publiques de Bill Clinton en 1996 qui s'excuse auprès des personnes qui auraient été utilisées comme cobayes de manière non volontaire, sans évidemment citer de projet particulier de la CIA, mais qui parle uniquement de l'éthique scientifique contemporaine aux États-Unis qui doit être respectée.
Donc le degré de mystère autour de MKUltra est effectivement très élevé. Certaines ouais. affaires ne sont pas totalement classées. Et je pense qu'on reviendra sans doute à plusieurs reprises dans cette émission sur les sous-projets qu'il y a eu de MKUltra, puisqu'il y en a eu beaucoup. Ouais. Je sais qu'il y a notamment eu des expériences de téléportation, ce genre de choses.
Ils ont tenté. Bon, ça
voilà,
jamais marché.
Qui sont mal passées. Donc je pense que voilà, MKUltra, c'est un sujet très vaste qui est compliqué à traiter comme ça d'un seul coup. Mais on y reviendra sans doute, parce que c'est vraiment... une des affaires les plus incroyables de la CIA et des États-Unis tout court, en fait.
Oui, puis c'est un programme de recherche, quoi. C'est littéralement... parce qu'il y en a plein qui pensent que MKUltra, c'est une arme, que c'est une arme utilisée en particulier par la CIA. Je voyais beaucoup de ça dans les forums quand je parcourais et tout, qui disaient l'arme MKUltra. Non, il n'y a pas... ils n'ont pas développé une arme et il n'y a pas de gun sur lequel il est écrit MKUltra. S'ils n'ont pas développé de choses comme ça ou d'armes à grande échelle, c'était une batterie de tests qui avait des objectifs complètement funestes.
Avant de passer à la conclusion de ce numéro du Bureau des Mystères, chers auditeurs, nous avons un petit message à vous faire passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et comme vous le savez, la particularité de tous les podcasts du label Riviera Ferraille, c'est d'être au plus proche de nos communautés, au plus proche de vous, les auditeurs. Alors bon, le Bureau des Mystères, c'est un podcast qui est tout jeune, on ne sait pas vraiment encore à quoi ressemblera l'avenir de l'émission, mais vous êtes déjà quand même beaucoup à nous écouter, et on aimerait mieux vous connaître.
Et afin de préparer du coup au mieux ces émissions, ces événements, ou potentiellement des opérations futures, qui pourraient vous plaire, hein, puisque ce serait l'objectif, Riviera Ferraille a créé la grande enquête des Ferraillos, qui a pour nom, alors là, tenez-vous bien, c'est assez original, le Riviera Rama, deux fois Ra. Riviera Rama, mais tout attaché, c'était sans doute pour l'allitération. Et on aimerait beaucoup que vous, chers auditeurs du Bureau des Mystères, puissiez y répondre en masse.
Alors rassurez-vous, cette grande enquête est anonyme, afin que vous puissiez répondre le plus honnêtement, le plus sereinement possible à ces questions, qui vont sûrement s'intéresser voilà, à votre profil, à ce que vous écoutez sur Riviera Ferraille, à ce que vous aimez ou pas dans les émissions ou dans notre émission.
Et comment vous l'écoutez aussi, comment vous voulez voir l'émission évoluer tout en restant proche de vos propres goûts et de vos pratiques dans l'écoute d'un podcast.
Alors ce grand sondage, il est vraiment important pour nous, pour Henri Michel, pour Riviera Ferraille. Alors ça nous ferait vraiment un immense plaisir que vous alliez y répondre.
Il dure que quelques minutes et je crois même que à la fin, il y a peut-être un petit cadeau de type contenu exclusif qui pourra vous attendre une fois que vous aurez répondu à toutes les questions.
Alors on compte sur vous, tous nos auditeurs du Bureau des Mystères, pour faire entendre vos voix dans cette grande enquête des Rivieros qui s'appelle, on le rappelle,
Riviera Rama.
C'est ça, Riviera Rama. Et l'adresse pour y accéder, c'est tout simple, c'est rivierarama.fr.
Tout attaché, merci à vous.
Merci.
Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cette nouvelle session de travail du Bureau des Mystères. Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur rivieraferraille.com.
Et vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, @BDMlepodcast, donc c'est le Bureau des Mystères tout simplement. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook de notre autre podcast, Inspiré de Faits Réels. Donc voilà, sur ces deux comptes, on vous répond assez vite généralement. Et surtout, sur ces deux comptes, vous pouvez nous envoyer des histoires. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et d'ailleurs, dans cet épisode, nous avons fait deux histoires qui nous ont été envoyées par vous, chers auditeurs.
Eh oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner.
Tugunska, Café Charles, était une histoire qui nous avait été envoyée par Matt Stryker sur Twitter. Quant à moi, la lettre du diable qui nous a fait frissonner tout à l'heure nous a été envoyée par Chloé sur Facebook. Donc voilà, on lit.
Un grand merci à
ces deux auditeurs. Voilà, quand vous nous les envoyez, ces histoires, comme vous l'avez dit précédemment, on regarde, on se renseigne là-dessus, et quand elles sont sympas, eh bien voilà, on en parle dans l'émission, donc continuez à nous envoyer. Et petit détail que j'avais précisé la dernière fois, si vous avez des histoires qui vous sont arrivées à vous, en personne. Nous, on aimerait bien justement faire ce genre de choses, des témoignages de personnes qui ont vécu de près des choses étranges. Ça pourrait peut-être, pourquoi pas, faire l'objet d'une émission spéciale. En tout cas, on verra plus tard. Nous, on va raccrocher ici. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session du Bureau des Mystères. Et d'ici là, évitez de correspondre avec le diable.